placer ce message dans un texte de Luc. Si vous avez vos Bibles, il y aura pas mal de choses à chercher aujourd'hui. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Je passe au verset 7. Le jour des pains sans levain et l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils leur dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le dans la maison où il entrera. » Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre haute, aménagée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Voilà, la Pâque du Seigneur. Alors, on va un petit peu se familiariser avec certains mots. Attendez, il y a des choses que j'ai écrites, parce que je suis comme vous, hein. Je ne suis pas hébraïsant, donc j'ai besoin de notes. Et là, j'ai perdu des notes. Où est-ce qu'elle est passée, mes notes? J'ai perdu quelques notes. Pas toutes mes notes, mais... Elles étaient là. Voilà. Donc, on va fêter la Pessa. Donc, P-E-2-S-A-H. La Pessa, la Pâque. Vous voyez que Jésus a respecté les fêtes juives et nous entrons, nous chrétiens, dans ces fêtes aussi, hein, qui sont des fêtes millénaires, qui ont une signification, on appelle ça avec des grands mots, hein, théologie eschatologique, c'est-à-dire des choses qui arrivent, qui sont prophétisées, qui arrivent, hein, dans le futur. Donc elles sont arrivées il y a 2000 ans, mais il y a d'autres choses qui vont arriver encore, hein, tout n'est pas arrivé. Voilà. Donc on rentre dans une histoire et la Pessa, la Pâque, fait partie de cette histoire de l'humanité, hein, qui est absolument fondamentale à comprendre. Alors en fait, vous avez un peu tout ce que vous avez besoin, enfin tout notre message va concerner cette table. Hein. Alors cette table, sur cette table, il y a un certain nombre d'objets qu'il est important d'identifier et qui sont symboliques. La scène, d'ailleurs, qu'on prend en principe chaque dimanche, elle est symbolique. Bon, il y a d'autres chrétiens. Non, je te dirai quand il faut écrire. Alors oui, déjà une erreur, oui. L'erreur... Non, mais c'est bien. Parce que les erreurs, vous voyez, les erreurs sont bonnes. Sont bonnes. Voilà. Pourquoi il a mis un S à Pâques? Voilà. Oui, même aussi, je suis comme toi, des fois j'hésitais jusqu'au moment où j'ai su. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut savoir pour ne pas faire d'erreur. Quels sont ceux qui savent? Oui? Pour les juifs? Oui, il n'y a pas de S, c'est Pessa, c'est singulier. Et pour les chrétiens, il y a un S. Alors pourquoi il y a un S, les Pâques? Pardon? Ah, ça c'est élaboré comme réponse. Non, d'après ce que je sais, d'après ce que je sais, c'est que chez les chrétiens, il y a beaucoup de façons de faire la Pâque. Il y a différentes Pâques. Les orthodoxes, qui ne sont pas à la même date. Il y a des catholiques, il y en a d'autres, des catholiques Orient, etc. D'ailleurs, ça ne se fait pas à la même date que les juifs. Alors, je n'ai pas préparé un message sur les dates, hein, mais c'est assez compliqué, parce qu'il y a la nouvelle lune. Alors, des fois, la Pâque, ça arrive certaines années où on a tous la même date, mais c'est très rare. Hein. Pardon ? Tous les jours, oui, tous les jours la Pâque. Donc voilà, il y a un S parce qu'il y a des fêtes à différentes dates, mais c'est toujours la Pâque. La signification de la Pâque est la même, mais les dates sont différentes. Voilà. Donc c'est la Pâque, sans S que nous allons voir aujourd'hui, qui est universel, hein, qui est vrai pour tous les chrétiens de la même façon, puisque c'est la Pâque de Jésus, enfin que Jésus a célébré. Alors revenons à cette table sur laquelle il y a le maximum d'objets qui sont symboliques. Hein. On revient à la notion de symbole. Hein. Comme je le disais, nous, chrétiens évangéliques, protestants aussi, nous pensons que la scène est symbolique. Elle est pas, Jésus n'est pas dans le pain comme on le pense dans l'Eucharistie. Voilà. Et on reste sur la notion de symbole. Alors on va voir quelques symboles. Alors moi j'ai commencé par ça. C'est quoi comme symbole ça? Chandelier? Pardon? Le chandelier? Il y a combien de branches là? Pourquoi 7? Oui, déjà un symbole, le chiffre 7. Si on ne connaît pas les symboles, on est un peu mal avec la Bible. Pourquoi il y a 7 et pas 6, et pas 8 et pas 12? Pardon? Voilà, il faut connaître un peu les symboles bibliques. Alors, dans la Bible, il y a des chiffres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Et chaque chiffre a un symbole. C'est-à-dire, quand vous rencontrez un chiffre, ça rentre, enfin, la plupart du temps, ça rentre dans un symbole. Le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. Dieu, à chaque fois qu'on renvoie dans la Bible au chiffre 7, c'est la perfection de Dieu, perfection divine. Voilà, je ne vais pas plus loin, il y a d'autres symboles, mais ça suffit. D'autres symboles. Ça, c'est quoi ce symbole? Alors normalement, ce n'est pas tout à fait des vraies herbes hein, d'Israël, mais c'est supposé être des herbes amères. Si vous les mangez, vaut mieux pas. Je les ai pris dans mon jardin, elles sont amères. Pourquoi? Quel est le symbole? Pourquoi des herbes amères? La douleur, ou plutôt l'amertume, puisqu'on est dans l'amertume que ça provoque dans l'âme, hein, quand on est esclave, quand on est en prison, quand on est, voilà, provoque de l'amertume, c'est amer. Hein. Donc vous voyez, le symbole, c'est palpable au sens aussi, hein, on comprend simplement par les sens. Donc ça, c'est l'amertume de l'esclavage de l'Égypte. Donc ça rappelle l'Égypte, hein, ça rappelle, et pour nous, qu'est-ce que ça nous rappelle, nous? Parce qu'il faut bien actualiser cette scène aujourd'hui. Hein. C'est pas il y a 4000 ans, c'est aussi aujourd'hui. Pardon? Vous n'êtes pas amer, vous? Il n'y a pas de l'amertume? Pardon? Oui, mais soyez un peu plus concret, je veux dire. Parce que, vous voyez, les choses sont très concrètes dans la Bible. Hein. On s'incarne dans les choses, sinon ça devient une religion, comme le disait Michel. Pardon? Oui, alors, effectivement, il a les bonnes paroles. Mais la réalité, c'est quoi? C'est quand vous êtes sans Christ, vous êtes dans l'amertume. Non? Oui, non? Oui, non? Non? T'es encore dans l'amertume? Non, il ne faut pas réfléchir, c'était avant, donc tu ne peux pas. Mais quand on est sans Christ, on est dans l'amertume, on est perdu, on est dans l'esclavage. Et même avec Christ, c'est pour ça que vous avez un peu du mal à répondre, parce que même avec Christ, on est souvent dans l'esclavage. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on fait le TQP. Non, mais je suis désolé, ce n'est pas la publicité, c'est juste une réalité. Si on ne rentre pas dans le torrent qui purifie, si vous voulez, on a tous de l'amertume. Hello? Il y a quelqu'un ici qui n'a aucune amertume, qui est complètement libre, qui est complètement séparé de toute forme d'esclavage. Non? Vous voyez? Donc, ces herbes-là sont encore vraies pour nous. Vous voyez? C'est aujourd'hui encore. Sur cette table-là, on a tous besoin d'acquérir des degrés de liberté. Hello? Ça vous parle? Vous voyez? Donc, cette table-là encore, au niveau de ces herbes-là, nous parle. Nous parle. Parce que quand on n'est pas libre de certaines choses, hein, vous voyez, notre femme qui dit quelque chose, paf, on réagit. Ben, ce n'est pas libre. Vous voyez, c'est de l'amertume. Quand le mari dit quelque chose et la femme réagit, c'est pas de la liberté. Vous voyez? Hello? Ça vous parle, non? Sinon, je fais venir Michel, il va vous expliquer en détail. Il est plus doué que moi pour aller dans les détails. Mais c'est ça. C'est ça, l'amertume. On a besoin d'être libéré de l'amertume. Alors, ça, malheureusement, je voulais emmener un os, mais ça aurait peut-être été pas très bon pour les narines. Non, c'est un os de gigot d'agneau. Hein normalement, sur la table, dans le céder, il y a un os. Ça représente quoi, cet os? dans laquelle il y a encore un peu de chair dessus. C'est l'agneau. L'agneau. Ça renvoie à quoi comme symbole, l'agneau? C'est Jésus, sacrifice de Jésus. Donc sur cette table, il y a le sacrifice. Hein. Sacrifice de l'Ancien Testament qui était symbolisé par un agneau. En Égypte, ils ont dû tuer un agneau. Mais aujourd'hui, c'est Jésus. Donc il est toujours présent. On aurait pu mettre à la place une croix. C'est ce qu'on fait maintenant dans les églises chrétiennes. Mais voilà, sur la table de la Pâque, vous voyez, c'est encore ça. Donc j'aurais voulu. Je n'ai pas eu le temps de rassembler tous les objets que j'aurais voulu. Je mettrais une croix ici, voilà, à la place. Ici, il y a quoi? Des coupes. Quel est le symbole de la coupe? Je vous piège hein, ce matin. Ce n'est pas un piège, hein, c'est simplement si on ne sait pas ça, on ne comprend pas la Pâque de Jésus. Hein. Pardon? Oui, vous allez trop loin là, vous allez trop loin. Il faut rester simple, hein, simple au niveau déjà de la coupe. Oui, aïe, ça brûle là. On fait un jeu là. L'alliance, là c'est plus chaud là, c'est plus chaud. Oui, mais va plus loin. Et pas très loin. La convivialité dans la communion, hein, la convivialité. Est-ce qu'il y en a qui sont jamais allés à un mariage? Ah, ils sont jamais été à un mariage quoi. C'est quoi un mariage? Il y a la fête? Il y a une fête? Ou est-ce que c'est un enterrement? Je ne parle pas d'enterrement, je parle de mariage. Mariage. Et qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? Une fois que la cérémonie est terminée, hein, on s'éclate, non? On s'éclate ou on s'éclate pas? Non? Vous faites la tête dans un mariage? On s'éclate? Ok. Donc il y a une convivialité dans un mariage. Sinon, il n'y a pas de mariage. Hein, déjà, les mariés donnent le ton de la convivialité. Et nous, on suit tous. Ok. Eh bien, les coupes, c'est le symbole de la convivialité. Si vous voulez, si vous n'avez pas de coupe quand vous invitez quelqu'un, voilà. Alors, certains ne boivent pas de vin, mais dans le Moyen-Orient, on buvait du vin. Et le vin qu'on met dedans, hein, alors moi, j'ai pas de vin là, j'ai du multivitaminé, du fruit. Parce que je ne vais pas vous saouler non plus. Hein. Voilà, donc admettons qu'il y ait du vin là-dedans, eh bien, ça, c'est la marque, le signe, le symbole d'une convivialité. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est la joie, là. Hein, le repas de Pâques, de la Pessa, c'est la joie, il y a la convivialité. Il y a les coupes. Alors, on va voir pourquoi il y en a quatre, et il y en a même une cinquième. Bon, donc tout ça, on va voir après symboliquement. Après, il y a d'autres symboles de chaque coupe. Hein, mais bon, restons sur la coupe. Et là, il y a quoi, ici, là? Oui, effectivement, l'égalité, c'est pas tout à fait authentique. Il faudrait plutôt qu'elle soit comme ça, mais bon, c'est pas grave, mais c'est le symbole. Hein. On reste dans le symbole. Ça s'appelle comment, là? Alors, non, j'ai entendu le mot, là. Alors, il y a matza. Alors, tu vas écrire matza. C'est M-A-T-Z-A. Matza, matza. Je connais bien les matzas parce que dans le village où je suis né, j'ai vécu 20 ans d'ailleurs, ils font les matzas dans le monde entier. Ils font 40 000 matzas par heure, à l'heure. Hein. Ils font 40 tonnes à l'heure. Bon, c'est une fabrique qui fait ça et elle vend ça dans le monde entier. Donc je connais bien les matzas, j'ai été élevé à côté de la fabrique de matzas. La matza, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pardon? Pas de levain. Pas de levain. Donc la matza, c'est le symbole de quoi? Ah. Là aussi, si on ne comprend pas ça, symbole, on ne comprend pas la Pâque. Oui, alors là, on verra le symbole plus tard, hein, mais au niveau de la Pâque juive, le matza, sans levain, ça représente, ça symbolise quoi? Pourquoi Dieu leur a demandé de faire du matza? Parce que ça renvoie à un symbole. Vous voyez, on n'est pas du tout habitué au symbole. Voilà. C'est la hâte. H-A avec un petit accent, T-E. La hâte, la hâte, la hâte. Il faut se hâter. Vous voyez? Il faut se hâter. H-A avec une petite maisonnette au-dessus. Voilà. Accent circonflexe. Je me suis perdu ma grammaire. T-E. La hâte. la hâte. Il fallait se hâter. Okay. Alors, vous voyez, une fois que vous comprenez ce symbole, ça renvoie toute une réalité derrière. Hein, une réalité. Nous aussi, on n'est pas là pour être sur la terre, pour s'enraciner sur la terre. Hein. On est dans la hâte, on attend la suite, on attend la plénitude du royaume. Voilà, donc ça, c'est la matza. Et là, il y en a trois. Donc, c'est les matzot. Mat, Z-O-T. Les matzot. Trois matzot. Pourquoi trois? Alors là encore, quel est le symbole du chiffre 3 dans la Bible? La Trinité. Voilà, la Trinité. Donc Dieu est un en trois personnes. Hein. Donc là, on voit la Trinité. On verra aussi tout à l'heure quel est le symbolisme qui va un petit peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a encore comme symbole là? Oui, il y en a beaucoup des symboles, hein, mais le plus important qu'il faut, c'est ça. L'agneau, les herbes amères, le matza, les matzot et les quatre coupes de vin. Voilà, on a là sur la table le plus important. Hein, il y a encore d'autres choses après parce qu'il y a le repas. On ne va pas faire le repas complet, mais il y a le repas. Alors, je vais... voilà. La cérémonie, donc on va commencer le seder. Alors le seder, c'est écrit seder, S-E-D-E-R, S-E-D-E-R. Le seder. Le seder, c'est les règles de la cérémonie. C'est-à-dire pour que chaque juif fasse la même chose, ou les familles font la même chose, parce que c'est fait dans les familles, c'est fait aussi à l'église, hein. Eh bien, ça s'appelle les règles de la cérémonie, c'est le seder. Hein. Alors, la cérémonie du seder débute par... la bénédiction sur le vin qui symbolise la joie. Vous voyez, la première bénédiction qu'on fait, on symbolise la joie. Pour ça, je vous ai dit, il y a la joie hein, partout dans cette attitude. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset... Tu peux l'écrire, comme ça les gens peuvent retrouver les versets. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Qu'est-ce qui est marqué là? Ça, c'est l'esprit du seder. L'esprit du seder. C'est 1 Corinthiens 5, 7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie ou de méchanceté, mais avec des levains, avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Et vous, déjà là, tout le symbolisme du pain, de la matza, hein, qui est dedans, c'est sans levain, et nous sommes supposés être sans levain de malice, de perfidie, etc. Donc, il y a déjà la notion de purification qui est là. Et c'est en fait la première coupe. Hein. Donc, on commence par la première coupe, hein, on bénit le vin et on remplit la première coupe. Et cette première coupe, elle a un symbolisme. Elle-même, elle représente un symbole. Et ce symbole, c'est le... Alors là, je vous parle de la Pessa juive. Hein, c'est la sanctification. Vous voyez ? C'est le symbole de la sanctification. Alors, tu marques sanctification. Alors, je vais te compliquer un petit peu la vie. Tu vas voir. Parce qu'on va faire du TQP aussi. C'est pas mal. Alors, on va faire un truc comme ça. Voilà. Ici, c'est le TQP. Ici, c'est la Pessa. Voilà. Et ici, tu as la coupe 1, la coupe 2, la coupe 3, la coupe 4, la coupe 5. Voilà. Donc au fur et à mesure, alors sanctification. Donc la première coupe, alors ça c'est le seder. Hein. Dans le seder, donc chez tous les juifs aujourd'hui dans le monde entier, ça s'appelle la coupe de la sanctification. Ça c'est le seder. Pourquoi j'ai mis un parallèle? Parce que j'étais frappé quand j'ai préparé ce message que le torrent qui purifie, qui est effectivement d'enlever le vieux levain de notre vie, hein, pour remplacer par enlever le levain de malice, etc., pour le remplacer par la purification du Seigneur, eh bien, la première coupe est la première étape du torrent qui purifie. Quand on rentre dans le torrent qui purifie, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape. Alors, je ne vais pas demander à Elsa, parce que c'est elle qui enseigne le torrent, mais ceux qui suivent le disciple, pardon? reconnaître ses fautes. Alors, ce n'est pas la repentance, c'est avant la repentance, il y a la révélation. La révélation, vous savez, pourquoi beaucoup, la plupart des gens à qui vous parlez de Jésus, ils ne se convertissent pas? Il y a beaucoup de raisons, bien entendu. Mais la plus grande, la plus importante, la première des raisons, c'est qu'ils n'ont pas de révélation du péché. Quand vous parlez du péché, vous regardez, déjà c'est interdit de parler de péché, c'est moyenâgeux, etc. Voilà, voilà. Le problème, c'est que Jésus est mort pour les péchés. Donc voilà, si on enlève le péché, on enlève Jésus, on enlève le christianisme. Mais voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Hello ? Est-ce que vous me suivez ? S'il n'y a pas de révélation du péché, c'est pour ça qu'il ne faut pas brutaliser les gens avec l'évangile, ça ne sert à rien. S'ils n'ont pas de révélation, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Il faut prier. Il faut bien sûr parler de Jésus. Il faut évangéliser, ce n'est pas le problème, mais il faut prier. C'est la prière qui va permettre que les personnes aient une révélation qu'ils sont pécheurs. De toute façon, tous les réveils spirituels, il y en a qui ont lu des livres de réveil, c'est incroyable. Ça commence toujours par la révélation du péché, toujours, toujours. Sinon, c'est pas un vrai réveil. Hein. On peut devenir chrétien par 36 manières, mais le vrai réveil, c'est être conscient d'avoir la révélation qu'on a offensé Dieu. Alors, voyez, donc c'est très important cette coupe-là, coupe la sanctification, qui est aussi la coupe de la révélation. Voilà. Donc on est dans le céder. Donc la première coupe. Vous voyez, c'est un repas de joie. La première coupe, elle passe. Alors là, je ne le fais pas passer parce qu'on va surtout prendre la coupe que Jésus a utilisée. Il faudrait peut-être un autre micro parce que celui-là commence à défaillir. C'est peut-être la pile. Cette coupe-là, elle a passé, mais il y en a une, je ne vous dis pas encore laquelle. C'est une de ces cinq-là qui va être utilisée pour la Sainte Cène. Ce n'est pas la première. Okay, la première, elle commence par la joie. Du vin dedans normalement hein, au Moyen-Orient, voilà. Et donc chacun bien boit. Je bois à votre place, à votre santé. Voilà. Un jour on pourra faire un repas comme Thanksgiving, hein, donc pourquoi pas. Voilà. Mais pour l'instant on va rester dans le symbolique. Donc voilà, la première coupe est commencée et on bénit le Seigneur. Dans Matthieu, alors on lit le psaume 113, je regarde l'heure, je ne pense pas avoir le temps de tout lire, mais j'aurais bien aimé lire tous les psaumes, mais on va aussi se réjouir ensemble. Je vous lis juste le début, parce que vous connaissez bien les psaumes, pour vous montrer de quel psaume il s'agit. Donc il y a deux psaumes qui sont lus, le psaume 113 et 114. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. À toujours du lever du soleil jusqu'à son coucher. On va quand même le chanter celui-là, ce qu'on a préparé, du lever du soleil jusqu'à son coucher. On va chanter le chant. Donc tu marques psaume. Celui-là aussi marche. Il faudra peut-être que je prenne un fil. Et ensuite le 114. C'est les piles. Ensuite le 114. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers. Alléluia. Ouais, ça sera mieux. Voilà, les montagnes bondissent de joie. Amen. On va chanter ces deux chants parce que ça va nous mettre dans la joie de la première coupe, qui est la coupe de la révélation, la coupe que nous sommes vraiment dans la joie de voir que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est merveilleux, qui est un Dieu qui conduit son peuple dans la victoire. Amen. Et c'est ça le début du céder, c'est ça la première coupe qui introduit ce repas de joie. On va vraiment se réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà. Donc cette coupe, c'est la joie de la fête, la joie de pouvoir célébrer son don. Vous levez et puis on va vraiment chanter ces deux chants du lever du soleil jusqu'à son coucher et vous bondirez de joie. Amen. Vous voyez, c'est des chants qui, dans Jeunesse en Mission, ont inspiré, hein, inspiré nos cantiques, inspiré bien notre, je dirais, liturgie hein, de chants. Mais voilà, il rentre dans cet ordre-là, si vous voulez, hein, le bondirait de joie. Amen.
Bon, on va attendre qu'il soit prêt. Je vais aller un peu plus loin, juste pour ne pas trop perdre de temps, c'est bon.
Du lever du soleil,
vous pouvez faire les gestes,
jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant.
Du lever du soleil.
Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant.
Bénissez.
Bénissez Dieu, tous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité.
On arrête, on prend le deuxième chant, vous bondirez de joie. Alléluia. Mais c'est juste un clip, hein. Vous aimez bien les clips? Vas-y.
C'est trop
Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs. Bâton des mains. Tous les arbres des champs battront des mains.
Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains.
Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. La nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains.
Les arbres des champs battront des mains.
Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, quand Dieu nous conduit, même les arbres des champs battent des mains. Hein, c'est ça le psaume. Et donc, ça commence bien, hein, la Pessa. Voilà. Alors, ensuite, après, on bénit. Donc, il y a certains rites dont l'objectif est double. Tout d'abord, rappeler l'utilisation de certains symboles, les conditions de nos ancêtres durant l'esclavage et au moment de la sortie d'Égypte. Et de plus, ces mêmes symboles sont utilisés pour éveiller la question des enfants. Les enfants sont beaucoup présents dans cette fête. Alors, la première chose que le chef de famille fait, c'est pas forcément le rabbin, hein, c'est celui qui conduit le seder, il prend la matzos du milieu. Et il la coupe en deux. Voilà, il la coupe en deux. Et alors, c'est vous savez, les Juifs, on les dépeint très sombres, avec des chapeaux noirs et tout ça. Mais ils sont très, très malins. Hein, très, voilà. Celle-là, il la cache. Alors, je vais la cacher. Il la cache quelque part. Bon, là, vous l'avez vu, mais normalement, on la cache pour que personne ne le sache. Et pourquoi on la cache? Là, on cherche des trucs très, très spirituels. Voilà. Voilà. Vous voyez, les lapins de Pâques et tout ça, bon, c'est vrai qu'il y en a qui se posent la question. Moi, je suis en Alsace. J'ai vécu en Alsace depuis tout petit, mes parents, mes grands-parents, tout ça. Et en fait, les lapins et tout ça, ça vient de là. Ça vient de là. Ouais. Parce que les Juifs étaient très présents en Alsace. Il y a trois religions autorisées officiellement en Alsace. C'est le judaïsme, le protestantisme et le catholicisme. C'est tout. Pas les évangéliques, hein, ils sont persécutés. Enfin, plus maintenant, mais quand j'étais petit, moi, quand les évangéliques de ma ville se réunissaient, ils les poursuivaient avec des fourches quand ils faisaient des baptêmes. Hein, et, ah oui, non, encore quand j'étais petit. Hein. Voilà. Donc, les trois religions
et le judaïsme vivait à côté des autres. Et donc, ils voyaient faire ça, bah, ils changeaient avec des lapins, voilà, ou des œufs. Mais c'est la matzot, la matzot, ou voilà, une matza, qui est cachée, une moitié qui est cachée. Et à la fin du repas, c'est les enfants qui vont la chercher, il faut qu'ils la cherchent. Qu'il la cherche, parce que c'est la fête. Et à la fin du repas, quand ils la trouvent, eh bien, ce sera le dessert. C'est-à-dire qu'ils vont tous les distribuer, ils vont manger comme un dessert. Bon, c'est un peu plus grand que ça, hein, mais voilà. Donc, voilà. Et ça, ça représente quoi maintenant sur le plan biblique actuel, plan Nouveau Testament. Ça, c'est la Pâque juive, mais vous savez que tous ces symboles se sont réalisés, incarnés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus réalité. Pour moi, ça c'est les trois croix. Tu vois, à la croix, ça représente les personnes, l'âme qui était brisée. Jésus était brisé à la croix, hein, pour nous. Hein. Et ça, c'est les deux larrons, qui sont aussi des êtres humains. Hein. Il y en a un qui a accepté le salut, qui est allé au ciel, et l'autre qui ne l'a pas accepté, qui termine loin du Seigneur, on appelle ça l'enfer, mais c'est simplement être loin à l'écart de la présence de Dieu. Et vous voyez, donc ces matzahs déjà sont une symbolisation de quelque chose de très actuel et de très important à comprendre. Voilà, donc à ce niveau-là, on est dans cette pratique de couper la matzah en deux, et de continuer le céder avec la deuxième coupe. Vous voyez, on est toujours dans la joie, on est dans la deuxième coupe. On remplit la deuxième coupe. Voilà. Alors, cette deuxième coupe, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Alors, on va donner du sens à cette fête. Hein. Et pour cela, donc, ça s'appelle la Manishtana. Le moment du Seder, on est à la Manishtana. C'est-à-dire, c'est l'explication de ce qui s'est passé au moment de la Pâque. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres? Pourquoi mangeons-nous du pain azim? Pourquoi il y a des herbes amères? Pourquoi nous ne consommons pas les autres soirs de ces herbes amères? Pourquoi trempons-nous les herbes? Alors moi, vous voyez, je n'ai pas tout ici. Il y aurait aussi encore un bol avec de l'eau salée qu'il faudrait mettre. On les trempe dedans, avec de l'eau salée. Ça s'appelle le haroset. Le haroset, c'est un mélange de différentes choses. Je n'ai pas regardé le détail. Et pourquoi mangeons-nous accoudés? Alors, tout, vous voyez, à l'époque, au Moyen-Orient, au temps de Jésus, on mangeait accoudés. Et il y a deux coudes là. Celui-là, c'est le coude droit. Ça, c'est le coude gauche. Et sur lequel on était accoudé? Non, sur le gauche. Tout le monde, ce soir-là, était accouché sur le... voilà, sur le coude gauche. Encore un symbole. Non. Pourquoi le coude gauche? Alors... Rassurez-vous, je ne savais pas non plus. Hein. C'est quand j'ai préparé ça, j'étais obligé de m'informer. Pourquoi le coude gauche? Alors tout le monde, y compris Jésus, était sur le coude gauche. C'est intéressant comme symbole, voyez-vous. Vous voyez, quand on ne connaît pas les symboles, on dit coude gauche, pourquoi coude gauche? Non, ils étaient accoudés. Hein. Ils mangeaient avec la main droite, mais ils étaient accoudés. C'est la coude. Bien, tout simplement parce que les Romains, à l'époque, il n'y a pas de mystère... La Bible aussi est quelque chose de pratique. Hein, parce que les Romains étaient accoudés sur le coude gauche. Et les Romains étaient symbole de liberté. Donc c'est le symbole de la liberté. Voyez-vous, ça c'est la table qui représente la liberté, la sortie de l'Égypte, de l'esclavage pour aller vers la liberté. Et donc tous les symboles vont dans ce sens-là. Nous sommes libres, des êtres libres. Hein. S'ils étaient sur le côté droit... Le symbolique à l'époque de Jésus, c'est que nous restons esclaves. Non, nous ne voulons pas rester esclaves. Il y en a qui veulent rester esclaves ici. Bon, alors, accoudez-vous sur le coude gauche. Faites comme ça. Voilà. Bon, c'est un symbole romain. Hein. Donc, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Hein. Mais voilà, à l'époque de Jésus, ils étaient tous sur le coude gauche et ils mangeaient comme ça toute la soirée pour montrer que c'était un peuple libre. Amen. c'est beau, hein, décupé. Hein, on est dans la liberté, on cherche l'objectif. Non, non, pour l'instant. Alors, le deuxième, on va arriver au deuxième symbole. Comment s'appelle cette coupe-là? Parce que toutes les coupes ont, dans la CEDER, ils ont un nom, un symbole. Et c'est quoi ce nom? Bah, c'est la délivrance. La coupe de la délivrance. Eh oui. Donc, dans le CEDER, donc dans l'organisation de la PAC, c'est la délivrance. Et dans le TQP, c'est quoi la deuxième étape qui vous attend, ceux qui vont faire la retraite, le 9 mai, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Donc, quelle est la deuxième étape dans laquelle Nathalie va vous conduire pour... Pardon? Ouais. Bien, bien, bien. La repentance. C'est là qu'est la repentance. La repentance est un acte de délivrance. Hello. Voilà. Sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus, Jean-Baptiste est venu pour l'annoncer. Jésus, c'était son message de départ. Repentez-vous. Pierre, quand il a fondé l'église, la première église, il s'est adressé au public. Qu'est-ce qu'il a dit? Et maintenant, repentez-vous. Les hommes lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Repentez-vous. Vous voyez, c'est le message, la repentance, c'est le message de la délivrance. Amen. C'est quoi le premier? Révélation. Ah, je vous mets le TQP maintenant. Hein. On va passer du CEDER au TQP. Voilà. Repentance. Comme ça, ça va rester. Alors, là, heureusement, je vois que le temps passe. Je ne peux pas tout faire. Là, normalement, il y a quatre enfants qui viennent. Alors, on va, tu vas symboliser les quatre enfants. Parce que j'ai pas le temps, hein. Voilà. Normalement, il y a quatre enfants qui viennent pendant ce temps de repas. Et les quatre enfants, ils représentent quatre manières d'aborder la fête. Parce que les enfants se posent des questions, comme nous aussi. On est aussi un peu un enfant. On veut savoir ce qui se passe. Et donc, ils vont poser quatre questions différentes parce qu'ils représentent quatre enfants différents. Alors, le premier enfant, alors tu vas faire les quatre enfants. Le premier enfant, c'est l'enfant sage. Voilà, l'enfant sage. Alors, tu prends un air sage. Voilà. Et l'enfant sage va me poser la question, celui qui conduit le CEDER, enfin, tous ceux qui sont là. Et tu vas dire, là, je suis un peu juste, donc il faut que tu avances un tout petit peu. Et tu vas poser la question, quel est le sens de cette fête?
Quel est le sens de cette fête? Ah,
bonne question. Le sens de cette fête. La signification de cette fête. Ça vous intéresse? Vous voyez, c'est l'enfant, il s'intéresse à ça. Et donc, celui qui conduit le CEDER, ça peut être le papa, un chef de famille, ça peut être le rabbin, et il va expliquer le sens de cette fête. Alors, c'est quoi le sens de la fête? Oui? La signification de la fête? Alors, bien sûr, il y a deux significations. Il y a la signification de la Pessa, et pour nous, de ce qui s'est passé à Jésus, puisque Jésus, entre-temps, il est venu. Hein, donc, voilà. Donc, pour nous, maintenant, on donnerait la signification. C'est ce qu'on donne, d'ailleurs, au moment de la Sainte-Seine. Hein. Donc, à la Pessa, le sens de la fête, c'est effectivement qu'on explique à l'enfant, et à tous ceux qui sont là ce soir-là, que, effectivement, c'est la fête de la délivrance de l'esclavage pour aller vers la liberté. Hein. Parce que les Juifs, ils ont crié pour être libres, pour adorer leur Dieu. Ils ne pouvaient pas l'adorer. Ils étaient interdits par le Pharaon qui les opprimait. Et donc, c'est le sens d'aller vers la liberté. Et aujourd'hui, eh bien, avec le temps qui purifie, justement, on m'offre aussi cette liberté pour aller plus loin dans notre vie chrétienne, dans notre vécu chrétien. Donc c'est vers la liberté, c'est le premier sens de la fête. Le deuxième sens, bien sûr, c'est la justification de nos péchés. Parce que la Pessa, ça s'appelle le passage. Et ça renvoie à quel passage? C'est le passage de la mer Rouge? Est-ce que c'est le passage de la mer Rouge? La Pessa, hein, je reviens aux Hébreux. Est-ce que c'est le passage de la mer Rouge, la Pâque? Non? C'est quel passage alors? Non, c'est pas la sortie d'Égypte non plus. Voilà. là, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait tous, hein, tous les chrétiens, parce qu'on ne connaît pas le Seder. Hein. La Pâque, la Pessa, c'est le passage de l'ange de la mort au-dessus de toute l'Égypte. Hein. Et cet ange de la mort, il a préservé tous ceux, y compris les Égyptiens hein, qui l'ont fait. Hein. Attention, c'est pas que les Israélites. Hein. Tous ceux qui ont mis du sang sur les linteaux, eh bien, l'ange a passé et il n'a pas tué les premiers-nés. Allô ? Vous voyez ? La vraie signification, c'est ça, de la Pâque. Le passage de l'ange de la mort qui épargne les premiers-nés, qui épargne la vie hein, de tous ceux qui se protègent par le sang. Donc, ça nous renvoie au sang de Jésus. La signification, c'est le sang de Jésus. Si on n'est pas couvert par le sang de Jésus, eh bien, l'ennemi, la mort, le destructeur, Satan, il peut nous atteindre. Le sang de Jésus ne peut pas nous atteindre. Amen. Voilà. Donc, premier enfant, posez sa question. Ensuite, après, il y a un autre enfant qui vient. Il est indiscipliné. Voilà. Un enfant indiscipliné. Et lui, il pose la question, quelle est la raison ?
Quelle est la raison de...
Ah oui, il veut savoir la raison. Hein. Voilà. C'est pas un Français, hein, c'est un petit juif. Il veut savoir la raison de cette fête. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi Dieu demande de faire cette fête-là ? La raison. Est-ce qu'il y a une raison ? Alors normalement, celui qui conduit la fête, il dit que voilà, c'est en souvenir de ce rachat, on a été racheté par Dieu grâce à ce sang, cet agneau qui a été immolé. Hein. Donc c'est la rédemption. Hein. On explique effectivement, on a été racheté hein, parce qu'on est facilement ingrat. Tu vois, on est facilement ingrat quand on n'est pas dans la reconnaissance, on n'est pas dans la gratitude de ce que Dieu a fait pour nous. Et ça nous rappelle que, en fait, il y a une raison à cela, c'est que ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu. Hein, et de l'esclavage, on est passé à la liberté et on veut fêter ça chaque année hein, et chaque jour maintenant en tant que chrétien. Amen. Vous voyez, la raison, il y a une raison, c'est nous rappeler qu'on n'est pas voilà, des gens qui voulons nous établir sur la terre pour faire de l'argent, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, une belle je sais pas quoi. Voilà. Non, la raison, c'est que ça nous rappelle que nous pouvons être dans l'esclavage si nous ne sommes pas avec Jésus. Amen. Troisième enfant, lui, il est naïf. C'est quoi le naïf ? Il croit tout ce qu'on lui dit, il est influençable. Je te dis, tu vas à droite, tu vas à gauche. Voilà. C'est naïf, il croit tout ce qu'on lui dit. Et lui, il va poser d'autres questions. Il va poser la question, qu'est-ce que ça change cette fête ? Ah ben oui, c'est une bonne question. Hein ? Qu'est-ce que ça change cette fête ? Parce qu'il va dire, bah, oui, mes copains, mes copines, ils font pas cette fête-là. Moi, je suis juif, voilà, je suis stigmatisé, je fais la fête, la Pessa, tout ça. Voilà, surtout en France, hein, on me regarde de travers, tout ça. Qu'est-ce que ça change hein? Celui qui est naïf, il ne veut pas. Il a du mal à influencer les autres, il est influencé lui-même. Vous voyez, c'est ce genre de personnage, et souvent on se retrouve un peu là-dedans. Eh bien là, il faut dire, bah oui, tes copains, peut-être qu'ils ne le fêtent pas, mais toi, tu as un appel particulier. Tu fais partie du peuple de Dieu. C'est ça que ça change. Ce qui change, c'est que Dieu, tu as un appel sur ta vie, Dieu a un regard sur toi et tu as une destinée différente. Et vous, donc, vous pouvez expliquer à cet enfant que, en fait, ça peut lui donner effectivement le pourquoi il est dans cette famille, pourquoi il est là ce soir-là et qu'est-ce qu'il fait. Et que tu as été mis à part, donc sanctifié à la première coupe, tu as été sanctifié, mis à part. Et ecclésia, ça veut dire tu as été tiré hors du monde. Pour témoigner au monde, il faut retourner au monde, mais tu es hors du monde pour être mis à part. Hein, donc tu es témoin du royaume de Dieu. Alors le quatrième enfant, c'est qui ? Celui qui n'a pas de questions. Ah, ils ont pensé à tout, hein, les juifs. Il n'y a pas de questions. Bof, bof. Hein, c'est bof, bof. Voilà. Voilà, il vit jour le jour. Voilà. Vous connaissez les bof, bof ? Bah, pas de question. Ah ben là, c'est l'occasion, c'est cette dernière enfant, là tu peux t'asseoir, où on explique la Pâque. Enfin, on explique ce qui s'est passé. Alors, je vois l'heure et j'y arriverai pas. Donc là, on commence à lire, alors j'aurais pu lire les passages d'Exode, hein, les passages, voilà, ou le passage de la mer Rouge, etc. Là on prend du temps, hein, parce que ça dure plus longtemps que ce qu'on fait ce matin. Et là, on passe du temps pour expliquer eh bien, ce qui s'est passé. Et alors, il y a 10 plaies. 10 plaies. Alors, on retrouve nos fameux symboles. Pourquoi 10? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Vous voyez, il n'y a rien de hasard dans la Bible. Sauf qu'on ne connaît pas toujours les symbolismes. Pourquoi 10 plaies? Parce que ce soir-là, on va parler des 10 plaies. Alors, je vous les cite, les 10 plaies. C'est le sang, hein, l'eau qui s'est transformée en sang, les grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Alors, c'est quoi les 10 plaies? Pour savoir ce que c'est que la signification d'un symbole, il faut retrouver la même chose dans la Bible. La Bible s'explique toujours par elle-même. Elle ne s'explique jamais en cherchant l'explication en dehors de la Bible. Attention, ça c'est un principe théologique. Donc, vous connaissez les 10 mines, les 10 talents? Et quand Jésus donne les 10 talents, par exemple. Bon, il y a d'autres moments où le nombre 10 apparaît. Eh bien, le chiffre 10, en l'occurrence ici, c'est la responsabilité humaine. La responsabilité humaine. Les traits de l'homme parfait devant Dieu qui est responsable. Et voyez-vous, Pharaon était responsable de ce qu'il faisait. Il a été jugé sur ce qu'il était en train de faire. Et les 10 plaies, c'est le jugement de l'attitude de Pharaon. Voilà. Je vais plus loin. Alors, à cet endroit-là, normalement, ce qu'il fait, le maître de cérémonie, c'est que chaque fois qu'il annonce une plaie, il prend le doigt et il enlève une goutte du vin qui est dans cette coupe-là. Et ce symbole, c'est de retirer une goutte de vin. Ça a un sens pour les Juifs. Ça indique qu'il nous est interdit de nous réjouir de la mort de nos ennemis. Intéressant ça. Oui, Jésus a dit, ne te réjouis pas. Ils sont mortels comme toi, ils sont pécheurs comme toi, mais c'est Dieu qui juge, c'est pas nous qui jugeons. Oui. Donc c'est intéressant, juste ce petit élément qui apparaît dans le céder. Alors, dans Luc, on va juste lire Luc 22, 17. Luc 22, 17. Jésus prit une coupe, rendit grâce, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. À ce moment-là, cette coupe est à nouveau distribuée parmi les convives, donc parmi les disciples. Et Jésus lave les pieds. Donc c'est le moment du lavement des pieds. Donc c'est Luc 22, 17. Vous pouvez lire chez vous parce que je n'ai pas le temps de tout développer. Jean 13, 4 à 12. Et Jean 13, 26. C'est là que Jésus donne une bouchée à Judas. Jean 13, 26. Donc Jean 13, 26. C'est à ce moment-là que Jésus donne une bouchée à Judas. Jésus répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau, à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus dit, fais ce que tu fais, ce que tu as à faire. Parce que, voyez-vous, le pain était trempé dans l'eau, et à ce moment-là, il l'a donné à Judas. C'est au moment de cette coupe. Voyez-vous, au lieu de se repentir, pourtant, le moment de se repentir, il s'est rebellé. Et Satan est directement rentré en lui. Vous voyez, c'est grave de ne pas être dans la repentance. Mais ça, c'est un enseignement en lui-même. Et ensuite, après ça, tout le monde mange. Donc là, c'est le repas. Donc dans le céder, il y a le repas. Donc là, il faudrait qu'on ait des agneaux, il faudrait qu'on ait... Alors, attention, il y a toujours que du pain comme ça, hein, toute la soirée. Il y a des herbes, donc c'est pas un repas comme Thanksgiving, hein, c'est vraiment un repas, mais où il y a l'agneau. Hein. Donc là, on mange donc, toute la soirée, on mange ensemble. Et ensuite, après, il y a la troisième coupe. La troisième coupe. Donc on remplit la troisième coupe. Voilà. Alors cette coupe-là, c'est quelle coupe ? Alors, il y a le CEDER et il y a le TQP. Alors, TQP, vous le savez déjà, puisque vous connaissez par cœur, quatrième démarche, la troisième démarche. Mais le CEDER, c'est la rédemption. C'est la rédemption, le rachat. Hein, rédemption, c'est un terme qui signifie rachat. Hein, on était racheté. Racheté par Dieu. Racheté par le sang de Jésus. Et le temps qui purifie, c'est quoi ? Non. Renoncement. Voyez-vous, c'est pas à nous, c'est pas à Dieu de renoncer, c'est à nous de renoncer à ce qu'on a pratiqué, puisqu'on est passé par la repentance. On veut pas continuer ce qu'on a fait, ce qu'on a confessé, on le renonce. On renonce les paroles, on renonce les mauvaises attitudes, on renonce tout ce qui nous a rendu esclaves. Parce que sinon, on retourne en esclavage. Et ça peut être cette fois pire, puisque Jésus dit, s'il y en a qui partent et que la maison peut balayer, il revient plus fort. Donc le renoncement est absolument capital à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on est dans la troisième coupe, la coupe de la rédemption, la coupe du renoncement. Hein. Jésus a renoncé à lui, hein, à sa vie. Mais nous, on est des petits Christ. Et si nous, on ne renonce pas à notre vie pour accepter celle de Jésus, on n'est pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui reçoit la vie de Jésus. Et là, il y a un transfert, il y a un renoncement de ma vie pour recevoir la vie de Jésus. Donc le CEDER, à partir de ce moment-là, le CEDER se termine rapidement, puisque c'est le repas qui prend le plus de temps. Et on arrive donc à cette troisième coupe. Et cette troisième coupe... à ce moment-là, les enfants vont chercher la matzot qui est cachée, parce que là, c'est Christ qui s'est donné à la croix, hein, pour nous, et on cherche la suivante pour se réjouir, pour en faire un dessert. Et à ce moment-là, c'est là, à ce moment-là, que Jésus donne à distribuer. Et donc là, on va le faire ensemble. Donc j'invite les personnes, les deux personnes qui sont désignées, à distribuer le repas, puisqu'on est actuellement dans le repas où Jésus, à ce moment-là, eh bien, il demande qu'on distribue le corps, hein, donc le corps qui a été brisé de Jésus, hein, qu'on va manger, hein, et qui est symbolique, bien sûr, de sa mort. Et ensuite, après, on prendra, pas tout de suite, on la prendra après, hein, on prendra la coupe après. Mais là, on va prendre le repas. Alors, voilà, vous allez prendre chacun. Voilà. Je vais demander à Anguille de prier.
Merci Seigneur pour ce pain qui représente encore mort à la croix. Ce jour dont nous rappelons, Seigneur, que tu étais mort et nous étions morts aussi avec toi, mais nous sommes maintenant vivants puisque tu es ressuscité. Et merci, Seigneur, pour cette vie que tu as donnée pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours cette vie en nous, que notre vie soit cachée en toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Voilà. Pendant que je continue le repas du CEDER, ben vous en prenez chacun, tu vas de ce côté-là, et Bruno de ce côté-là. Vous prenez un morceau, comme on le prend d'habitude, et c'est à ce moment-là donc, que Jésus, c'est à cette coupe-là que les choses se passent pour distribuer et la matzot, et ensuite après la coupe. Et là, on a des chants d'Alléluia. Hein. Alors, on peut chanter le chant célébré. Alors les psaumes qui sont lus à ce moment-là, vous pouvez les noter, c'est psaume 115 à 118. Psaume 115 à 118, c'est les psaumes habituels, et le psaume 136. Voilà. Disons quand vous lisez les psaumes, c'est à ce moment-là, à la Pessa, que ces psaumes-là sont particulièrement lus, hein, et qu'ils ont été retenus pour le moment de la Pessa. Le psaume 115, le contenu, c'est... Voilà, je vais vous donner le premier, le démarrage. Hein. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, et on va chanter celui-là. Mais à ton nom donne gloire. Voyez-vous, la gloire est rendue à Dieu. Donc vous voyez, c'est, ce psaume, il indique qu'on est dans le monde de la rédemption où on donne gloire à Dieu. Ensuite, le psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a entendu mon oreille se tourner vers lui. Psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le. Psaume 118, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance est du jour. Formidable. Vous voyez, c'est des psaumes de célébration. Hein. Et le psaume 136... Psaume 136, qui est aussi pris à ce moment-là. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours, etc. Et puis après, il y a et celui qui coupa en deux la mer des gens, celui qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita le Pharaon et son armée, etc. Voyez, on reparle de ce passage de la mer rouge, de la victoire accomplie, psaume 136. Donc tous ces psaumes sont pris à ce moment-là, sont chantés à ce moment-là, lorsque le pain est distribué. Et on va chanter ce chant-là, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. Hein, ou...
Non, pas à nous.
Non,
pas à nous. Mais à ton nom,
donne gloire.
Non, pas à nous.
À nous, mais à ton nom, donne gloire. Non, Éternel est sur moi. Tu ouvres mes yeux et je vois
la splendeur de ta majesté.
Le voile est déchiré et je peux contempler
l'âme de Jésus,
l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône.
La force
du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne
pour toujours.
Encore une fois, non pas à nous. Il est très fort ce chant. Hein.
Non pas à nous,
pas à nous,
mais
à ton nom,
donne gloire.
Non pas à nous,
à ton nom, donne gloire. Dieu éternel sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté,
émerveillé par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus,
l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours, pour toujours. Pour toujours, pour toujours,
pour toujours. Applaudissons le roi, le lion de Juda, la force du grand roi qui nous a sortis de la mort, qui nous a rendus vainqueurs. Alléluia. Amen. On chante l'autre chant ? D'ailleurs, si nous avions du temps, on chanterait tous les psaumes. Hein ? C'est ça la joie. Alléluia.
Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donnez la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons
le vin, c'est la joie. Et on chante à son honneur.
Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer.
Partageons la joie du Seigneur. Alléluia. Venez distribuer le vin. Distribuez le vin. C'est le moment de distribuer le vin.
Notre roi.
Notre joie. Alléluia. Bruno.
Venez le célébrer.
C'est dans la joie.
Dansez.
Chantez.
Chantez notre roi, venez.
La Passa, c'est la joie. Chantez, dansez. Allez, Judith, danse.
Son grand amour, venez le danser. Le Fils de Dieu est venu. Donnez la vie.
Tu prépares à passer le chant après d'Hélène. Hein.
Car tu nous fais partager la joie. Et nous offrons au son honneur
un chant d'amour, Seigneur.
Venez le célébrer,
célébrer,
célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi.
Youhou!
Venez le célébrer,
célébrer,
célébrer, chanter.
C'est pas un enterrement, hein?
Tiens, joie. Notre roi,
notre roi,
venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
C'est des chants d'Alléluia.
De la vie, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager la joie. Et nous offrons
en ton honneur un chant d'amour, Seigneur.
Venez le célébrer,
célébrer,
célébrer, chanter,
célébrer, chanter notre roi.
Venez le célébrer,
célébrer,
célébrer, chanter,
célébrer, chanter votre roi. Venez le célébrer,
venez le célébrer,
célébrer. Invitez vos amis, invitez vos copains, invitez tout le monde pour le célébrer. C'est la Pâque du Seigneur. On passe vers la liberté. Alléluia.
Venez le célébrer,
célébrer,
célébrer, chanter.
Il est ressuscité, il est vivant.
Notre roi.
Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. C'est pas fini. Vous voyez des couples qui sont vides encore là. Il y a des couples qui sont vides. Alors c'est quoi la quatrième coupe? Alors là, on remplit la quatrième coupe. Alors c'est quoi cette coupe? On est toujours dans la Pessa. Bientôt, vous aurez la réponse, mais j'écoute pour que vous creusiez les méninges. Alors, attendez, on va faire comme à l'école. Je ne suis pas du tout pédagogue, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. La Pessa, c'est la sanctification. Dites-le ensemble, comme ça, ça rentre. Sanctification. La délivrance. La rédemption. Et la quatrième coupe que je viens de verser, c'est la restauration. Et là, ce qui est formidable, c'est que dans le TQP, c'est restauration aussi. Hello. Ça m'a frappé. Voyez-vous, on est dans la restauration. Alléluia. Dis à ton voisin, restauration. La restauration. la restauration. Ça, c'est la dernière coupe. Et la coupe de la restauration, alors là, je ne vous dis pas, là, ça éclate les chants de joie. Et Hélène s'est préparée, là, à nous faire danser. Alors là, c'est vraiment la danse. Hein. C'est la restauration. Hein. On n'est pas là. Non, on est là pour se réjouir de ce que nous avons un salut aussi grand, si merveilleux. Amen. Il y en a qui se réjouissent ici. Hein. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un dancing. Venez ici. Venez ici. Ici, c'est le dancing du Seigneur. Hein, on se réjouit. Amen. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire dans le ciel ? Qu'on va rester là, comme ça ? Non, on va se réjouir. Hein. Jésus a préparé une table avec, et nous sommes les convives. Il nous a conviés à sa table. Amen. Voyez-vous, il y a du vin, il y a des choses formidables hein, qui nous attendent. T'es content, Christian ? Hein, Christian, t'es content ? Ouais. Il faut amener les copains ici. Il faut leur dire, voilà, ici, on s'amuse, on rigole, on danse, on chante. Mais, vous voyez, vous n'avez pas la gueule de bois après. C'est ça, la différence. Ben oui. Hein? Parce que dans le monde, on vous bourre, je ne vous dis pas la suite, et ici, on est dans la joie, et la joie du Seigneur est notre... Ben, si vous voulez être fortifié, allez dans la joie du Seigneur. Amen.